Voilà, bonjour à tous. On veut rendre grâce ensemble. Père Céleste, merci de nous accompagner chacun au quotidien. Merci au travers de Jésus d'être pour chacun un secours, un refuge, un abri. Et puis en même temps, une voix qui nous dit « Lève-toi, voilà, suis-moi ». Merci de déposer ta grâce encore sur chacun d'entre nous ce matin pendant que nous sommes à l'écoute de ta parole. Amen. Voilà, j'ai intitulé ce temps de partage « Au creux de la croix ». Alors, je ne sais pas quel est votre vécu de la croix. Pour moi, c'est un vécu spirituel fort, profond, intense. Je me rappelle d'un chrétien qui vivait avec nous quand on était en communauté pendant quelques années. Il me disait « Mais j'arrive pas à comprendre ce que c'est que la croix ». Là aussi, il nous faut grandir, avancer dans les profondeurs de la révélation. Comme tout le monde, j'ai traversé des moments dans ma vie pas faciles, aussi au niveau physique. Jean-Marc se rappelle, pendant un an, deux ans au collège, j'ai dû me faire soigner les dents, avec des moments... Et puis, à chaque fois, c'était un peu comme carrément une chose d'opération. Il y avait deux, trois personnes autour de moi avec les serviettes bleutées. Puis voilà, on m'a arraché une dizaine de dents. Enfin voilà, il a fallu en remplacer. Et puis à chaque fois, quand j'avais 12 ans, j'ai eu la phobie du dentiste. Donc pendant 16 ans, je ne voulais plus retourner chez le dentiste. Et puis 78, j'avais tellement mal, je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Donc au collège, voilà, on a trouvé une dentiste qui parlait français et qui était spécialisée pour les enfants. Là, je me suis dit, voilà, ça va peut-être le faire. Et puis, quand la douleur montait, voilà, je disais, Seigneur, tu as souffert sur la croix bien plus que des soins dentaires. Voilà, aide-moi à traverser ces moments. Ça a duré quelques semaines, quelques mois. Et puis après, quand on en sort, on se dit, ah ouais, bon, finalement, ça, voilà, ça l'a fait, ça va le faire. On peut. Mais voilà, ça m'a permis de découvrir à cette occasion. Et puis, pendant une trentaine d'années où j'étais sur des soins dentaires assez pointus, de me dire, voilà, Seigneur, au creux de ta croix, tu as souffert bien plus que moi que je puisse traverser. Voilà, ces moments de, si ce n'est de souffrance, en tous les cas, de désagrément physique. Quel est notre rapport, notre vécu avec la croix de Jésus? Alors après, je vais vous le dire, moi j'ai horreur du film où tout est sanglant, on voit Jésus cloué, tout ça, voilà, c'est pas mon... Tout le côté du Moyen-Âge, voilà, où tout d'un coup, la croix devient quelque chose de supplice, mais quelque chose où on se complaît. Je chercherai plutôt à m'en échapper. Puis en même temps, Jésus l'a vécu, l'a traversé. J'aimerais lire un psaume avec vous. On va le lire en entier. J'espère que ça ne vous dérange pas. Il y a 24 versets. Parfois, les prédicateurs se disent « Waouh, il faut lire des textes courts pour ne pas embêter les chrétiens. » Ou alors, est-ce qu'on peut lire l'Écriture, prendre le temps de le lire tranquillement, 24 versets du psaume 71. Mais je trouvais dommage de n'en lire que le début. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi, délivre-moi, incline vers moi ton oreille, secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu es résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui quittent ma vie se consultent entre eux, disant : Dieu l'abandonne, poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Ô Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient confus, exterminés, eux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte, d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. J'appellerai la justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'instruis dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec l'harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. C'est en même temps un psaume de refuge, un psaume de louange, et un psaume de combat contre les diverses épreuves de la vie. L'ennemi ne nous abandonnera pas non plus. S'il peut chercher à nous faire un croche-patte, on dit à nous mettre des bâtons dans les roues, eh bien, il sera toujours heureux de le faire. Donc, c'est un peu un psaume universel qui peut nous suivre. Il est là depuis le commencement de nos jours. J'aime beaucoup, jusqu'à ma blanche vieillesse. J'ai encore un peu de cheveux gris, mais bon, ça commence à... Quel est mon rapport à la croix de Jésus? Est-ce que c'est un lieu qui me fait peur, un endroit qui me fait peur? Ou est-ce que c'est un lieu de refuge, un abri, un lieu où je suis en sécurité? Je vais encore pousser d'un cran. Est-ce que l'écriture peut être pour moi comme la croix du Christ, un refuge? Et est-ce que la parole, dans l'écriture, dans la parole de Dieu, est-ce que je peux trouver un abri, de la protection, de la sécurité? Être à l'abri au creux de la croix, c'est quelque chose de... un endroit où je puisse toujours me retirer. Un endroit parfois pour pouvoir faire cesser les combats, dire « Voilà, Seigneur, j'ai besoin d'un temps de repos, d'un temps de tranquillité. Mets-moi à l'abri, au creux de ta croix. Un lieu de refuge, un abri, un lieu de protection, un lieu de sécurité. C'est le vécu spirituel de beaucoup d'hommes, de femmes de Dieu. C'est aussi les conséquences de ne plus seulement compter sur soi. La croix n'est pas un refuge tant que l'on compte sur ses propres forces, ses propres connaissances spirituelles, sa propre justification. J'aimerais vous raconter une petite histoire, et vous la connaissez peut-être, hein, c'est celle de Martin Luther, pas Luther King aux États-Unis, Martin Luther en Allemagne, 14e siècle. C'était un jeune homme, bonne famille, qui se déplaçait pas mal. Et un jour, en plein milieu d'un champ, il y a eu un orage. L'orage lui a fait peur, on dit, qui s'est réfugié sous un arbre. Et l'orage est tombé juste à côté, soit sur l'arbre d'à côté, ou juste. Et puis là, il a prié le saint patron de la corporation où travaillait son père, puis il a dit, si j'en réchappe, je me fais moine. En relisant cette histoire, je me suis dit, quelle idée. Moi, ça ne serait jamais venu à l'esprit de me faire moine pour... Puis en même temps, je me rappelle, quand j'étais petit, quand il y avait des orages, ma mère me prenait et puis on se réfugiait dans une armoire. Puis je me rappelle encore de mon père qui rigolait, qui trouvait ça complètement farfelu. Ma mère avait peur de l'orage. Martin Luther s'est dit, au couvent des Augustins, je vais trouver un abri, un refuge contre l'orage. Et puis, il a choisi les moines Augustins. C'était le type de moines les plus durs. Pauvreté, aller sur la route. Alors, on dirait mendier, il me disait, non, c'est voilà, demander le... la dîme de ce que les chrétiens recevaient. C'était des jeûnes, c'était de la prière et c'était de la flagellation. Avec un espèce de martinet, on enlevait sa chasuble ou son habit. Et le soir, dans sa cellule, jusqu'où, jusque quand? Et il a fait ça pendant quelques années. Et il a dit, si jamais un moine peut gagner le ciel, si jamais moine par sa moinerie peut gagner le ciel, 10 sur 10. Tout ce qu'il faut faire pour gagner, et il n'a rien gagné. Et le refuge, l'abri, la sécurité... y compris dans un couvent augustin, il ne l'a jamais trouvé. Il y est entré en 1505, couvent d'Erfurt. Et puis là, il a eu un conseiller spirituel, un moine, Johann Stopitz, qui lui a dit, voilà, lis l'écriture. Puis au départ, et puis il lui a dit, tu verras, le récit de la croix te fera du bien. Et puis pendant des années, Luther disait, ça ne me fait rien, je ne comprends pas l'écriture. Et puis il est devenu prêtre, 1507. Il a commencé de travailler l'écriture, il a enseigné les psaumes. Il a voyagé, il a été à Rome. Et puis là, ce qu'il a vu à Rome lui a glacé l'esprit. C'est l'époque où on construisait cette basilique qui est toujours à Rome. Et puis, il y avait des indulgences. Et puis, il y avait un type qui s'appelait Tetzel qui allait partout et qui disait, quand une pièce tombe et fait du bruit, ding, 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 de l'or, eh bien, une âme s'échappe. Et il avait suffisamment de maturité spirituelle, de discernement et de compréhension pour dire, mais là, il y a quelque chose qui est tordu. C'était un homme très pur, très droit, et il s'est rendu compte, quand il y a eu cet orage, que s'il mourait sur l'instant, aucune idée de ce que son âme, son esprit deviendrait. Sauvé, pas sauvé, j'en sais rien. Il a enseigné les psaumes pendant deux, trois ans. Et puis, à un moment donné, je crois qu'il a fait sienne un texte de Paul, « Lutte au dehors, crainte au dedans ». Comment trouver un abri, un refuge, une sécurité? Comment trouver la paix, le repos? La pratique de l'Église du Moyen-Âge avait oublié le fondement de la grâce, du salut par la foi. C'était le salut par les œuvres et par l'argent. On pouvait même sauver des gens de sa famille en mettant de l'argent, des indulgences, pour construire Saint-Pierre de Rome. Comment voir la gloire de Dieu? Comment être en relation avec la sainteté de Dieu? J'aimerais lire un texte avec vous dans le livre d'Exode, au chapitre 33. C'est une recherche universelle. Tous les les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont vécu ces affres, cette douleur de savoir, mais j'en suis où par rapport à Dieu? Est-ce que je suis à l'abri? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis pour l'éternité avec Dieu? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Est-ce qu'il y a toujours ce péché qui m'empêche d'être en relation? Moïse avait aussi besoin de sécurité. Exode, chapitre 33, verset 18. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. J'aimerais te rencontrer en face à face. J'aimerais être accepté par toi. J'aimerais me sentir aimé, protégé. Je pense que la charge, quand il a compris où sa vie le menait, il a dû se dire, wow, comment je vais pouvoir traverser tout ça? L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. On s'arrête là. Ça a toujours été mon interrogation, mais Dieu vivant, comment je peux m'approcher de quelqu'un d'aussi grand, d'aussi puissant, Il y a une telle différence. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Il y a un écart entre ce que Dieu est et ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Moïse l'avait compris, mais il disait en même temps, je veux faire un pas de plus pour te connaître, pour être en relation avec toi, en sécurité. Puis je lui dis, normalement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais pour toi, je vais te mettre dans un creux du rocher et je vais te protéger de ma main. Nous sommes à l'abri au creux de la croix et nous sommes protégés par le corps et le sang de Jésus. Wow. Et là, on peut voir la gloire de Dieu. Jésus dit, qui m'a vu a vu le Père. Il y a une possibilité pour rencontrer Dieu en plénitude. Moïse l'a vu qu'imparfaitement. Il lui a dit, voilà, je retournerai, j'enlèverai ma main et tu ne me verras que de dos. Nous rencontrons Dieu en face à face, spirituellement parlant, en esprit. Première année de conversion, je vivais des choses tellement fortes que quand je fermais les yeux, Jésus était dans un coin de la pièce. Ça me mettait tellement en sécurité. Je disais au milieu des chrétiens, je ferme les yeux, je prie et je sais que tu es là. Tous les dimanches matin, je préside, je prêche, mais je ferme les yeux, je me dis, voilà, Seigneur Jésus, c'est toi qui es là. Tous ces chrétiens t'appartiennent. Alors, en quelque sorte, je me débarrasse d'un fardeau ou d'un poids, je dis au Seigneur, allez, voilà, c'est à toi d'agir, c'est à toi d'aider chacun, c'est à toi d'aimer chacun, c'est à toi de développer l'aide à chacun. Un abri, un refuge, une protection, un lieu secret, une position spirituelle. Le creux du rocher, dans le creux de la croix, c'est aussi une position spirituelle que je peux revendiquer. Seigneur, je veux être à l'abri, en sécurité, protection de ta croix. Pas seulement au pied de la croix, mais dans ce creux d'amour où tu as donné ta vie. Où des hommes t'ont percé le côté, ton cou et les mains, les pieds. Là, il y a une sécurité pour moi. Martin Luther, 10 à 12 ans de lecture, d'étude de l'écriture. Et un jour, il a étudié le bon livre. L'épître de Paul aux Romains. Et puis là, il a lu premier chapitre, deuxième, troisième, huitième. Et puis à un moment donné, il a fait « Waouh ! Ça y est ! J'ai compris ! Eureka ! J'ai compris ! Des temps de révélation extraordinaire. Pouvoir cesser ses propres efforts. Jeûne, prière interminable, flagellation. Je ne sais pas si vous avez essayé la flagellation. Non, c'est pas... Oh, peut-être avec les orties, en tant que jardinier avec les ronces, les rosiers, mais bon. Un coup, deux coups, trois coups, cinq coups, dix coups, et puis il ne se passe rien. Luther a compris que le peuple allemand avait besoin de l'écriture dans sa langue. Avec le latin, avec pas mal d'embrouilles, les êtres humains, les hommes, les femmes, les enfants, n'avaient plus accès au salut. Ils n'avaient accès qu'à une foi, une religion désincarnée. Pas de grâce, pas de pardon, pas d'amour. Dieu reste le Dieu mystérieux qui fait peur et qui fait qu'on est tout le temps à c'est oui, c'est non, c'est comment est-ce que je me situe par rapport au Dieu vivant. On partage 1 Corinthiens. Tiens, au chapitre 1, les versets 26 à 31, des versets que personnellement je lis souvent, que j'aime beaucoup. Considérez, frères et sœurs, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, amour, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. J'ai rajouté amour. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Vous voyez ? Ouais, j'ai été un petit peu plus loin dans le texte, parce que pour moi, c'est l'amour de Dieu. Quand je suis au creux de la croix, je suis dans la sagesse, dans la justice, dans la sanctification, dans la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a un contenu dans la croix du Christ qui est aussi profond que l'amour de Dieu, aussi étendu que l'amour de Dieu. Pouvoir fermer les yeux et dire, voilà, ce matin, il y a eu un appel à être, dire merci. Pouvoir dire, voilà, merci Seigneur de ce que tu me places au creux de la croix, au creux de ce don de la vie de ton fils Jésus. Il a offert sa vie. J'avais été marqué par le témoignage de Merlin Carotter, celui qui a écrit « Prison à la louange, puissance à la louange ». Une fois, il était en avion, et puis le Saint-Esprit lui dit « Est-ce que tu es content ?» Enfin, le Seigneur, le Père lui dit « Est-ce que tu es content que mon fils a souffert sur la croix ?» Alors, il ne savait pas très bien comment prendre ça. Il dit « Si je dis non, et puis si je dis oui, et puis à la fin, le Saint-Esprit lui dit « Oui, tu peux dire oui. Tu peux être heureux que mon fils Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. » Parce que c'est le lieu où tu peux déposer tes fardeaux, tes péchés, et entrer en relation avec moi. Je crois que c'est dans Ésaïe, à la fin des Ésaïe 53, il dit « En vue de la joie qui était la sienne pour ce qu'il a donné à plusieurs êtres humains. » Il y a de la joie dans le ciel parce que Jésus a donné sa vie. Il a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption. Tout ça avec des choses folles, des choses faibles, des choses viles. Ce que nous sommes aujourd'hui dans les lieux célestes, waouh ! Met l'ennemi en déroute. L'ennemi en déroute. Il y a quelque chose de nouveau dans nos vies. On repart dans Exode, on revient au chapitre 34. On va lire quand même la fin. Dieu était jusqu'au bout dans sa révélation pour Moïse, Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Se tint là auprès de lui, proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités, nos péchés, prends-nous pour ta possession. » Avec cette révélation, Moïse va avoir le courage, l'allant pour aller jusqu'au bout avec Israël. Dieu lui révèle son amour, sa miséricorde, sa compassion, sa bonté, sa fidélité. Moïse a progressé dans quelque chose de plus parfait, de la connaissance de Dieu. encore deux textes. Hébreux chapitre 4, ces derniers temps, Jean-Marc nous a parlé de la miséricorde, Francine nous a parlé du repos, de la paix en Dieu. Hébreux chapitre 4, les versets 9 à 14. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est puissante, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Au creux de la croix, il y a un temps de repos, un temps de révélation, un temps pour s'approcher de la grâce en toute sécurité. La personne de Dieu, Père, Fils et Esprit, ne me fait plus peur. Mais au contraire, c'est une relation d'amour. Alléluia. Je vous lis le texte miracle qui a dégagé Martin Luther aux alentours de 1515-1516. Ça s'est fait graduellement. Romains chapitre 1, les versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. C'est une reprise d'un texte du prophète Habacuc. Chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Les jeûnes, les prières, les flagellations, on peut laisser tomber. Quand Luther, quand l'Esprit Saint a verrouillé par la parole vivante, par l'Écriture, cette révélation dans le cœur de Luther, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et puis à un moment donné, eh bien, il a pris le risque d'écrire 95 thèses. Il les a clouées à la porte de l'église où il a dit ah, il y a plein de choses qui ne servent à rien. La seule qui serve à quelque chose, c'est le juste vivra par sa foi, par sa confiance dans l'œuvre de Jésus. Et Martin Luther, eh bien, est sorti de son repos, de son refuge, et puis il est entré en conflit avec toute l'Église catholique. Pendant des années, il voulait réformer l'Église de l'intérieur. Ça n'a pas trop marché. Et puis, vous savez ce qui est devenu. Avec la réforme, nous en sommes les bénéficiaires aujourd'hui. Tout cela a commencé par un besoin, une recherche d'abri, de refuge, de sécurité. Il l'a trouvé en Jésus-Christ par la foi. La justice de Dieu par la foi. Père Céleste, merci de nous révéler à chacun pouvoir trouver cet abri, cette protection, ce refuge dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie, offert ta vie, offert ton sang sur la croix. Merci parce qu'elle me met en sécurité sous protection spirituelle. Merci pour la grâce, le pardon, l'amour, la miséricorde, la bonté, la fidélité que tu veux me donner, que tu veux donner à chacun, que tu veux donner à chacun ici. Amen.